Affaires étrangères, Christine Ockrent, France Culture, en partenariat avec le magazine Courrier International.
Bonjour à tous. L'Iran s'impose désormais de plein pied sur la scène internationale. Acteur majeur du théâtre régional, soutien direct de Damas, allié de fait de Moscou, adversaire frontal de l'Arabie Saoudite, la grande puissance chiite est sortie de son isolement et entend en récolter les fruits. Depuis la signature de l'accord nucléaire de l'été dernier et la levée de la plupart des sanctions qui entravaient l'économie, le régime doit répondre aux aspirations de la population. Seulement voilà, qui décide à Téhéran ? Au-delà de l'ouverture relative promise par le président Rouhani, le guide suprême et les ultra-conservateurs n'entendent pas desserrer leur contrôle sur une société qui aspire à la modernité. Vendredi prochain, le 26 février, doivent avoir lieu deux scrutins clés pour l'avenir du régime. Des élections législatives, où le clan réformateur va tenter d'élargir sa légitimité, et le renouvellement de l'Assemblée des experts, chargée de nommer le successeur du guide suprême. Que faut-il attendre de ces scrutins ? Quel rapport de force au sein d'un régime qui se préoccupe d'abord de sa survie au mépris des droits fondamentaux de la population ? Quelle perspective économique aussi au moment où Européens et Américains rivalisent d'ardeur pour pénétrer les marchés iraniens? C'est ce que nous allons explorer ce matin grâce à vous, Marie Ladier-Fouladi. Vous êtes démographe chargée de recherche au CNRS EHESS. Clément Terme, enseignant en Sciences Po, membre du Centre d'analyse et d'intervention sociologique à l'EHESS. Thierry Coville, économiste, chercheur à l'IRIS, et au téléphone depuis Londres, Camille Grand, directeur de la Fondation pour la Recherche Stratégique. Camille, je commence avec vous pour que vous nous situiez en fait la calendrier et la teneur des accords nucléaires qui ont donc déclenché en quelque sorte le dégel du glacis ou des relations entre occidentaux et les ayatollahs.
Alors, les accords nucléaires du 14 juillet 2015 sont entrés en vigueur le mois dernier et ont simultanément permis le dégel de l'essentiel des sanctions économiques pesant sur l'Iran, même si le processus s'est allé en partie dans le temps, dans la mesure où certaines sanctions restent en place, notamment un embargo sur les armes et un embargo sur la technologie des missiles. D'autre part, la levée des sanctions elle-même pose un certain nombre de problèmes pour les pays occidentaux qui avaient sanctionné l'Iran, dans la mesure où la réglementation américaine, la réglementation européenne mettent un certain temps à se mettre en place, et plus encore, la confiance met un certain temps à se mettre en place, dans la mesure où un certain nombre d'opérateurs, notamment les banques, hésitent un peu à se remettre sur le marché iranien, craignant ce qu'on appelle les sanctions secondaires américaines pour leurs activités.
Et craignant aussi le backlash ou le swap back au cas où l'Iran n'appliquerait pas aussi strictement que nécessaire les accords en question.
Oui, c'est une hypothèse qui est prévue dans l'accord avec l'Iran, qui est dans l'hypothèse où l'Iran se trouverait en violation de ses obligations. Les sanctions peuvent être mises en place de manière quasi automatique, même si ça suppose évidemment une crise politique majeure avec Téhéran pour qu'une telle décision soit prise. Mais ce mécanisme existe et évidemment incite à la prudence un certain nombre d'opérateurs économiques.
Et en janvier dernier, donc il y a un peu plus d'un mois maintenant, l'agence de Vienne, l'AIEA, a validé la mise en application par Téhéran des premières dispositions de cet accord, ce qui a d'ailleurs aussitôt entraîné un échange de prisonniers entre Washington et Téhéran. Et donc c'était en quelque sorte le signal que le retour à la normale, supposé qu'on puisse parler de retour puisque ça remonte à 1979, mais qu'en quelque sorte, on essayait à nouveau de se faire confiance de part et d'autre.
Alors là, il y a vraiment des situations assez différentes. Les États-Unis n'ont pas encore rétabli leurs relations diplomatiques avec l'Iran, sont encore dans une situation assez tendue et l'échange de prisonniers que vous évoquez est un signe du dégel de ces relations, mais n'était pas lié directement au dossier nucléaire. Donc on est encore dans des relations où la confiance n'est pas l'apanage d'aucune des parties autour de cette table, même si je pense qu'il y a une volonté de part et d'autre d'avancer dans la mise en œuvre de l'accord. L'Agence internationale de l'énergie atomique a mené les investigations qu'elle devait mener, a indiqué que les points en suspens au moment de la signature de l'accord étaient de son point de vue désormais réglé, et que donc il était possible, vu de Vienne, de rentrer dans la phase de l'accord et donc de lever les sanctions. Mm-hmm. C'est la position qui a été prise également par les six pays partis à l'accord dans ce contexte-là. Tout ceci prend beaucoup de temps, notamment dans la relation entre l'Iran et les États-Unis, parce que l'administration Obama est sous une forte pression du Congrès pour que la levée des sanctions se fasse avec beaucoup de prudence, pour ne pas dire que le Congrès est clairement hostile, le Congrès républicain est assez hostile à cette levée de sanctions, et donc le président américain n'a pas les coudées complètement franches, à la différence des gouvernements européens, qui, eux, ont pu assez rapidement lever les sanctions européennes par une décision commune de l'Union européenne.
En même temps, il semble qu'à Téhéran, il y ait une vraie inquiétude à l'idée que le prochain président américain, et surtout si c'est un républicain version Trump ou version Cruz, que le prochain président américain soit un partenaire beaucoup, beaucoup plus rétif, qui pourrait même revenir en arrière sur ce qui a été conclu.
Alors, tous les candidats républicains ont annoncé qu'ils reviendraient en arrière. Pour ma part, je n'y crois qu'à moitié, dans la mesure où le sujet sera de savoir, pour un président américain, si l'accord est mis en place. Ce sera difficile pour un président américain, si l'accord s'est bien déroulé, de l'annuler purement et simplement. Et ça créerait une crise non seulement avec l'Iran, mais aussi avec les partenaires des États-Unis dans cette négociation, que ce soit les Européens, les Russes ou les Chinois. En même temps, ce qui est à peu près certain, c'est que l'administration à venir, qu'elle soit démocrate ou républicaine, sera extrêmement vigilante à l'égard de l'Iran, et donc une mise en œuvre, je dirais, parfaite de l'accord sera attendue de la part de Téhéran. Et ce qui évidemment est un sujet, je dirais, d'inquiétude à Téhéran, où il y a une sorte de doute sur le fait que les États-Unis resteront pleinement engagés dans la mise en œuvre de cet accord, sachant que l'administration Obama a été plutôt souple, à la fois dans la dernière ligne droite de la négociation et plutôt récemment dans la mise en œuvre de l'accord, en n'ayant pas nécessairement les exigences qu'on aurait pu attendre d'une administration républicaine ou même d'une administration d'Hillary Clinton. Mmh.
Clément Terne, les mystères de la Perse ont peu de secrets pour vous. Enfin, c'est ce qu'on va vérifier, d'ailleurs, dans l'heure qui vient. Mais sérieusement, vu de Téhéran, le fait que les sanctions commencent à être levées, le fait que cet accord a été vendu par le président Rouhani, et d'abord sur Twitter, parce que c'est, semble-t-il, son outil de communication préféré, comme une page d'or dans l'histoire du pays. Quel est donc, par rapport à cet espoir entretenu, en tout cas par une partie du régime, quel est l'enjeu des élections de vendredi prochain ?
Je pense que pour le président Rouhani, il faut montrer, et c'était l'objet de son voyage en Europe, notamment à Paris et à Rome, de montrer les dividendes du compromis fait sur les droits du nucléaire iranien et la souveraineté nucléaire du pays. En montrant plus de transparence sur le nucléaire iranien et en gardant l'infrastructure du programme nucléaire iranien, le président Rouhani a montré sa flexibilité, puisqu'il a accepté quand même d'exporter l'uranium enrichi en Russie, par exemple. Donc il a fait des gestes de bonne volonté pour prouver les bonnes intentions de l'Iran, que l'Iran ne poursuivait pas la bombe et un projet de nucléaire militaire. Donc il veut maintenant que les entreprises viennent en Iran, créent des emplois, et que cela profite à une partie de la population et comme ça, il peut se constituer une clientèle qui lui est plus fidèle. Le problème, c'est comme tout changement de paradigme, cela va créer des tensions dans le système en Iran, parce qu'il y a ceux qui profitaient des sanctions. Et souvent, on remarque en Iran que ceux qui profitaient des sanctions sont ceux qui s'opposent au compromis sur le nucléaire. Donc le défi pour lui, c'est de faire valider par les élections, même si on lui a laissé une marge de manœuvre limitée en termes de candidats qui le soutiennent.
Oui, ça c'est quand même sidérant. Dans un premier temps, seulement 1% des candidats se présentant sous l'étiquette réformateur, 1% a été retenu. Après, je crois qu'il y a eu, il y en a eu quelques-uns qui ont été repêchés en quelque sorte.
Mais voilà, enfin, parce qu'ils sont repêchés sur une base personnelle. Donc ça assure une certaine fidélité à cette semi-opposition, on pourrait appeler. Donc ça permet de maintenir, si vous voulez, les mécontentements à l'intérieur du système. C'est-à-dire ceux qui soutiennent le président Rouhani peuvent toujours faire entendre leur voix, mais ceux qui représentent ces mécontents sont très fidèles au guide parce qu'ils ont été repêchés par l'autorité suprême. Donc ça permet, si vous voulez, à la fois de sécuriser le système et d'assurer une certaine participation aux élections. Parce que l'enjeu pour le président Rouhani, c'est de faire participer les Iraniens qui ne soutiennent pas par ailleurs forcément le projet révolutionnaire initial. Donc là, et ça renforce la légitimité du système. Et c'est tout l'objet du compromis sur le nucléaire, c'est en améliorant la situation économique de la population, on permet, comme vous l'avez bien indiqué en introduction, la survie du régime. Parce que le compromis est d'abord lié à la crainte, à un moment donné, après les deux mandats d'Ahmadinejad, d'un isolement trop grand.
Ahmadinejad qui était donc le dur des durs.
C'est ça, qui utilisait le programme pour se confronter avec l'Occident. Et là, la nouvelle méthode du président Rouhani, c'est d'avoir réglé d'abord cette question du nucléaire, pour les 10 prochaines années au moins, si tout le monde respecte ses engagements. Et maintenant, son défi, c'est de transformer l'Iran en pays émergent. Et de faire, par exemple, rentrer l'Iran dans l'Organisation mondiale du commerce. Donc c'est une vision très libérale. Il ne faut pas penser que parce que c'est un régime qui est issu d'une révolution, ils ne sont pas très capitalistes. Le président Rouhani était à Davos. Son objectif, c'est d'attirer les multinationales occidentales en Iran. Donc il y a vraiment là un projet qui est compatible avec l'économie mondialisée.
Vous dites un régime très libéral, mais au sens chinois du terme.
Voilà,
c'est-à-dire, on tient la société et on permet un développement économique à condition que, encore une fois, le verrou culturel, le verrou religieux, le verrou sociétal soit maintenu.
En fait, oui, c'est le défi, c'est pour éviter qu'il y ait, disons, une contestation politique, on va assurer un certain bien-être à la population et en améliorant les conditions de vie, on permet quand même au régime de préserver une assise certaine au sein de la population et d'élargir les clientèles aussi. Parce qu'en signant des contrats, on va avoir une injection d'argent dans l'économie iranienne. Il va y avoir quand même à la marge, au-delà des clientèles du régime direct, il va y avoir des créations d'emplois de toute façon.
Oui, mais là vous exprimez comme si Rouhani avait vraiment le pouvoir. Or, il doit, lui, sans arrêt, composer. Déjà, il faut peut-être se méfier du vocabulaire que nous-mêmes employons. On le qualifie de réformateur. Réformateur jusqu'où?
Oui, centriste.
Et puis, centriste, par rapport à quoi? Et en fait, l'opposition à Rouhani, ce sont bien les ultra-conservateurs encouragés, quand il le faut, par le guide suprême.
Oui, en fait, c'est un État rentier. Donc l'État rentier façonne une société à son image avec l'argent du pétrole. Mais dans le cas de Rouhani, lui, son idée, c'est justement, il pense que ça suffit pas, et notamment avec l'effondrement du prix du pétrole, et il veut développer ce qu'il appelle le secteur privé. C'est vrai qu'en Iran, le secteur privé est très proche de l'État. Donc vous allez me dire, oui, mais ils font tous partie du même groupe, etc. C'est vrai, mais il n'empêche qu'il y a des alternatives, et c'est l'idée des élections en Iran, de préserver des alternatives au sein du système, et cette flexibilité permet au régime de durer, parce que ça fait 37 ans qu'on entend ici que le régime va s'effondrer, etc., qu'il est à bout de souffle, et finalement, il est toujours là. Donc, il faut quand même regarder quelles sont ses forces, et je pense qu'une de ses forces, c'est cette flexibilité.
Thierry Coville, je rappelle que vous êtes économiste, chercheur à l'IRIS. La toile de fond de cet Iran qui renoue avec les partenaires occidentaux, c'est quand même une situation économique très, très, très affaiblie.
Oui, c'est sûr que la crise économique que l'Iran a traversée en partie à cause des sanctions a été un des facteurs qui ont poussé l'Iran à négocier. Bon, moi, je pense qu'on se trompe parce qu'il y avait un discours un petit peu côté occidental, côté israélien, qui disait, bon, les sanctions ont marché et ont mis l'Iran à la table des négociations. Je pense que c'est plus compliqué que ça parce que, si vous voulez, l'enchaînement des causes, c'est qu'il y a eu une crise économique très forte en Iran. L'inflation a atteint plus de 50%. Le chômage, je pense qu'on peut l'estimer à 20%, donc la situation économique était catastrophique. Et il y a eu des élections en 2013. Et si vous voulez, ça, ça s'est passé à travers les élections, c'est que l'Iran est un pays un peu paradoxal. La population iranienne a voté pour quelqu'un qu'on connaissait pas trop, qui est apparu comme le plus modéré, qui a dit « je vais régler la question du nucléaire par les négociations hein, et donc je vais faire sauter les sanctions ».
Mais ça, c'était après la répression de la vague verte qu'on avait vue peut-être un peu trop vite.
Oui, depuis 2009. Je veux dire par là qu'effectivement, les sanctions et la crise économique que subit l'Iran depuis 2012 ont été un élément majeur. Et c'est vrai que, pour revenir à ce que disait Clément, c'est tout à fait vrai. Si vous voulez, vous voir Rouhani, quand même, les challenges qu'il avait quand il a été élu. Donc, il a promis de régler la question nucléaire par les négociations, de faire sauter les sanctions. Et son prochain challenge, et c'est là qu'il met tous ses efforts là-dessus, c'est pour ça qu'il était à Davos, qu'il était en France, en Italie, il doit relancer l'économie. Hein, on a un taux de chômage actuellement en Iran de plus de 20%. Beaucoup de jeunes diplômés sont au chômage. Il y a un paradoxe en Iran. C'est un pays qui produit chaque année, je crois, 600 000 nouveaux masters et doctorats. Et ces jeunes ne trouvent pas de boulot. Ils se retrouvent chauffeurs de taxi, ils se trouvent à faire des petits boulots. Il y a la tentation de l'émigration. Donc il faut absolument, c'est son prochain challenge, c'est de relancer l'économie iranienne, créer ses emplois. Et c'est là où les gens l'attendent. Les gens l'attendent effectivement sur ce... Il a du capital politique, je pense, en Iran, parce qu'il a vraiment réglé cette question du nucléaire par les négociations. Mais il faut qu'il l'utilise pour relancer l'économie. Et si vous voulez, dans l'ordre des choses, je pense... Il y a effectivement, les Iraniens l'attendent aussi. C'est pour ça que, bon, je sais pas si c'est le sujet, mais je crois pas trop au modèle chinois. Les Iraniens attendent des évolutions sur le plan politique et des droits de l'homme. Mais il y a des priorités. Les gens savent bien que c'est compliqué, qu'il y a des oppositions. Donc maintenant, vraiment, les gens l'attendent sur l'économie.
Alors justement, un mot encore sur l'économie. Le prix du pétrole est en dents de scie, mais extrêmement bas. Donc on est autour de $30 le baril. Il y a eu des discussions cette semaine entre les Russes et les Saoudiens pour essayer de s'accorder sur un espèce d'étiage. Tout ça, c'est pas bon pour Téhéran.
Oui, alors l'économie iranienne a subi deux chocs très très violents. Je crois qu'il y a peu de pays qui ont été autant sanctionnés que l'Iran en très peu de temps. Donc les sanctions ont fait peser une pression maximum sur l'économie iranienne. Et en plus, ils ont pris un deuxième choc qui a été l'effondrement du prix du pétrole à l'été 2014. Donc, si vous voulez, c'était aussi ça le paradoxe de l'économie iranienne. Rouhani disait, ça va mieux, je suis en train de négocier sur le nucléaire. Et la situation économique actuellement est catastrophique à cause de ces deux effets. Donc c'est pour ça, si vous voulez, l'avantage de l'Iran, c'est quand même la dépendance existe par rapport au pétrole. Les recettes pétrolières représentent, avant les sanctions, je pense, un peu plus de 50% des recettes budgétaires. Donc il y a une forte dépendance par rapport au pétrole, mais qui n'est pas autant qu'en Arabie Saoudite.
Mais en revanche, avec des infrastructures et des installations qui sont vraisemblablement en très mauvais état.
Oui, mais alors ça, c'est l'impact des sanctions. Si vous voulez, ils sont retrouvés quand même avec du fait des sanctions, la moitié de leurs exportations pétrolières n'était plus possible. Donc, ils ont été privés du quart de leurs recettes budgétaires. Donc, pour arriver à un équilibre budgétaire, le gouvernement iranien a simplement décidé d'arrêter d'investir dans leurs infrastructures. C'est pour ça que c'est la priorité actuellement. Donc, il faut absolument, et pour ça qu'il doit avoir des contacts avec les entreprises pétrolières pour relancer le développement des champs pétroliers, surtout des champs gaziers. Il doit construire des aéroports. Donc, il y a une priorité sur les infrastructures. Mais je voulais insister, il y a effectivement un projet de privatisation en Iran, parce qu'il y a le problème que doit affronter Rouhani, c'est que l'économie iranienne est dominée par le secteur public à 80%.
Le secteur public est plutôt dans les mains des anciens ou toujours moudjahidines du peuple et les ultra-conservateurs.
Les passes d'Aran. Ouais. Voilà. Mais si vous voulez, c'est assez. Il y a un problème de transparence en Iran. On n'a pas les chiffres en fait.
C'est poliment dit.
Oui, non, mais si vous voulez, vous savez, vous allez en Algérie, vous n'avez pas les chiffres du PIB de l'année dernière. Donc il n'y a pas que l'Iran.
On est bien d'accord.
Je pense que le système de statistique iranien est d'ailleurs bien meilleur que d'autres pays. Mais c'est vrai, 80% de l'économie iranienne qui est au moins le secteur public. Et à l'intérieur, on ne sait pas trop combien il représente. On a deux grands acteurs qui sont assez compliqués à gérer, qui sont les passes-d'Aran, qui ont beaucoup d'entreprises, et ce qu'on appelle les fondations. Vous mettez tout ça ensemble, on a un secteur privé qui existe en Iran. C'est aussi ça que, si vous voulez, c'est pas simplement une question d'économie politique avec des rentes qu'on distribue. Il y a une société iranienne, il y a un secteur privé en Iran qui existe depuis du Shah, hein, qui est né dans les années 50-60. Il y a des vrais entrepreneurs en Iran et ils comptent sur Rouhani. Et tout le monde le sait en Iran, c'est pas le secteur public qui va créer les emplois. Il n'y a pas qu'en Iran d'ailleurs, c'est le secteur privé. Donc un des enjeux de Rouhani actuellement, c'est pour ça qu'il a besoin d'un parlement qui travaille avec lui. Il faut absolument qu'il développe le poids du secteur privé pour qu'il puisse créer ses emplois, pour qu'il puisse développer les exportations non pétrolières. Et si vous voulez, ça, c'est vraiment crucial. Et effectivement, là, je rejoins Clément. Vous imaginez que s'il parle de développer le secteur privé, ben, vous avez tout de suite les passes d'Aran et les fondations qui se disent, bon, écoutez, nous, on est là, on est contre. Ils étouffent le secteur privé dans un secteur comme la construction en Iran. Vous avez que les passes d'Aran qui travaillent. Donc là, il y a à la fois, et ça va pas être facile pour Rouhani, le secteur privé compte sur lui, mais arriver à développer le poids du secteur privé, c'est s'engager dans une lutte contre des intérêts comme les passes d'or et fondations. Et pour ça, il aura besoin de toutes les forces dont il peut avoir, et notamment d'un Parlement qui travaille avec lui.
Marie Fouladi, vous êtes-vous démographe et vous étudiez la société iranienne depuis un certain temps. Qu'en est-il des attentes de la population ? On voit bien les attentes des milieux économiques, des acteurs économiques. S'agissant de la population dans son ensemble, d'abord jusqu'à quel point est-elle informée ? On sait que le régime censure très volontiers les médias étrangers en fonction des époques. Les réseaux sociaux sont muselés, sauf encore une fois ceux qui sont utilisés par les dirigeants eux-mêmes. Jusqu'à quel point est-ce que la population iranienne consciente encore une fois que se joue dans ces élections un tournant ?
Avant de répondre à votre question, j'aimerais préciser un point qui est, en fait, je partage pas l'optimisme
non, mais
de mes collègues.
Parce qu'en fait, répondez-moi d'abord, après on parlera optimisme.
Ça rejoint en fait à votre question. C'est en fait le tableau que mes collègues ont dessiné me paraît assez optimiste, alors que il faut savoir que dans un an on va avoir une élection présidentielle, donc il faut savoir si, d'abord se poser la question si on y va rester, être élu en 2017.
Mais quand vous parlez d'élection présidentielle, donc c'est bien pour ça que vendredi prochain, il y a aussi l'élection de cette assemblée des experts qui doit choisir, en fait, le candidat, enfin le successeur du guide suprême.
Ce sont deux élections.
Donc l'élection présidentielle, c'est Rouhani qui remet son mandat en jeu.
Oui, en 2017. C'est en 2017, donc Rouhani est en fin de mandat, donc on ne sait pas, avec toutes les volontés que je veux bien lui prêter, arriverait vraiment à réaliser l'ensemble de ce programme que les collègues ont expliqué. Donc il faut attendre les résultats des élections de la semaine prochaine, législative, pour voir comment les conservateurs arrivent à jouer cette élection et comment ils arrivent à déterminer leur position par rapport à la politique de manière générale de gouvernement. Et sur ces enjeux-là, la population n'est pas du tout informée. Alors, je vais partir plutôt vers plutôt une analyse des enjeux des élections législatives. Je parle après des enjeux des élections de l'Assemblée des experts. Pour ce qui concerne les élections législatives, on sait très bien, vous avez dit au début de l'émission, qu'effectivement il reste peut-être 1% des candidats issus des camps dits réformateurs, modérés ou si Clément Terme, centristes, dont la candidature a été validée. Alors les réformateurs, donc ils sont pratiquement exclus de cette élection. Il y a vraiment pratiquement pas une véritable compétition entre les candidats. Et en revanche, les camps des conservateurs et ultra-conservateurs ont créé une coalition pour dans l'ensemble des régions pour représenter
leur force. Donc à votre avis, c'est déjà verrouillé.
C'est déjà verrouillé. Alors le discours que Rouhani a commencé à faire depuis une quinzaine de jours, suivi par la suite par les chefs des réformateurs, c'est d'insister en fait, auprès de la population d'aller voter pour empêcher l'élection des ultra-conservateurs, sans vraiment bien préciser pourquoi, autour de quel programme, pour quelle politique il faut aller voter. Donc je pense que ça pose beaucoup de problèmes et en fait, si vous voulez, ça verrouille l'espace politique iranien. La population iranienne sont vraiment prises entre les deux camps et ils sont obligés finalement d'aller voter pas pour, mais plutôt contre l'autre camp, sans savoir la direction.
Mais comme le rappelait Thierry Coville, c'est quand même comme ça que Rohani est arrivé au pouvoir.
Alors moi, j'ai aussi, en plus, par rapport à l'élection de Rohani, je suis peut-être la seule à dire et à écrire l'élection de Rohani était le résultat d'un compromis capital, mais provisoire, entre les deux hommes forts en Iran, à savoir le guide Khamenei et Rafsanjani, pour en premier lieu écarter Ahmadinejad et son camp de pouvoir, et deuxièmement parce que l'enjeu qui représentait cette élection en 2013, c'était vraiment la question des accords sur le nucléaire. Et Rouhani avait la mission de la part de Khamenei pour aller négocier. Sans l'accord de Khamenei, il pouvait pas aller négocier.
Oui, et d'ailleurs, une fois l'accord signé, Khamenei a dit continuons de nous méfier du grand Satan. Donc
et une fois que l'accord est signé, maintenant, Rouhani a fini sa mission. C'est pour ça qu'en fait, l'espace maintenant est verrouillé. Ils veulent envoyer l'ensemble de leurs candidats à l'Assemblée, au Parlement, pour justement, après, prendre le relais et la commande.
Clément Terme, j'imagine que vous ne souscrivez pas tout à fait à ce scénario, mais comment vient s'inscrire donc par rapport à ce qui va se passer au Majlis, donc au Parlement, comment va s'inscrire l'élection des fameux experts? On a vu que le petit-fils Khomeini, donc Hassan Khomeini, qui a, je crois, 43 ans, qui gère le mausolée du grand-père à Téhéran et qui est lui-même un ayatollah, mais de moindre rang, à Qom, qui est la grande ville religieuse, il a été retoqué. On a dit non, il connaît pas assez bien la religion, et donc il n'en est pas question. Ils ont peur d'une sorte de dynastie.
Vous savez, dans un régime théocratique, la menace vient des religieux. Donc, parce que si un religieux dissident remet en cause les fondements religieux du régime, ils ont raison d'être prudents là-dessus. Franchement, je serais à leur place, je serais extrêmement prudent également. Ensuite, sur l'optimisme, ce qu'on peut dire sur les élections des présidents en Iran, c'est qu'ils ont, jusqu'à présent, toujours fait deux mandats. Après, je suis prudent également. Je sais qu'il n'y a aucune garantie qu'ils fassent deux mandats. Et que, surtout, comme les élections ne sont pas démocratiques, et là, je souscris pleinement à ce qu'a dit ma collègue, c'est un système fermé, mais ça n'empêche pas un certain pluralisme. Et donc, comme les élections ne sont pas démocratiques, il faut de la surprise. C'est ça l'intelligence de ce système. C'est-à-dire qu'ils organisent une compétition entre eux, en organisant des surprises. Et ça, c'est excellent. Parce que quand vous avez une compétition entre eux-mêmes ou entre partisans d'un même système, pour faire participer la population, il faut quand même qu'il y ait un peu de suspense. Et c'est pour ça que ces phénomènes de disqualification de candidats, requalification, prennent toute leur importance. Maintenant, sur l'Assemblée des experts, là aussi, il faut être extrêmement prudent, parce qu'on dit toujours que c'est la fameuse théorie du choc, que si le leader décède, ça peut provoquer un changement systémique. Là aussi, je pense que la prudence est de mise, parce que quand le fondateur aussi est décédé, on a eu beaucoup, à ce moment-là, de commentaires qui allaient dans ce sens. Donc il y a tout à fait une capacité du système à trouver un successeur, soit un successeur qui serait nommé à sa place, et là je pense qu'il y aurait une surprise, et parce que c'est vraiment le fondement du système, c'est ça, c'est de nommer quelqu'un auquel on s'y attend pas. Mmh. Et ça, ça permet, si vous voulez, cette possibilité de faire participer les gens
au
système.
Mais on imagine bien, les grands ayatollahs, et c'est vrai depuis très longtemps, se mènent entre eux une lutte au couteau.
Oui, enfin, mais on parle aussi d'une direction collégiale, c'est également une possibilité. Donc il y a une lutte évidemment à l'intérieur d'un tel système, mais à la fin, ça c'est, je pense qu'il faut lire Gramsci, sur la solidarité entre clercs. Je pense qu'à la fin, le fait d'être mollah, par exemple, c'est un corps social indépendant. Donc ils vont, même s'il y a un tribunal spécial du clergé, etc., pour éliminer le risque de dissidence que vous avez mentionné, par exemple, avec Hassan Khomeini, donc il y a un contrôle évidemment très fort, mais en même temps, il y a une certaine liberté de parole à l'intérieur du système pour ceux qui sont les représentants les plus éminents du système. Par exemple, si l'ayatollah Rafsanjani effectue une critique virulente du système, comme il a été l'un des révolutionnaires, on va être plus tolérant que si c'est un activiste ou un membre d'une ONG. Donc il y a aussi cette possibilité d'une relation de confiance à l'intérieur du système et aussi l'intérêt qu'ils ont à coopérer entre eux, parce que malgré tout, même s'il y a ce secteur privé naissant et qui a toujours existé depuis l'époque du chat, le contrôle de la rente, c'est un enjeu considérable. Donc il y a l'intérêt à rester ensemble pour aussi redistribuer et contrôler les canaux de redistribution de la rente à l'intérieur du système.
Camille Grand, merci d'être toujours au téléphone avec nous depuis Londres. On parle de la situation interne, de la situation économique de l'Iran, mais voilà un pays qui est en guerre, qui soutient à bout de bras avec son armée, avec son armement, avec ses conseillers, le régime de Bachar el-Assad, qui utilise le Hezbollah, qui est donc son bras armé libanais, dans le même sens, qui affronte frontalement l'Arabie Saoudite. Il y a toujours cette histoire du Yémen qui n'est peut-être pas centrale, mais enfin qui n'est pas réglée. Donc jusqu'à quel point est-ce que ce jeu très actif sur le théâtre régional en fait oblige en quelque sorte les dirigeants iraniens à rester solidaires entre eux?
C'est évidemment un des points centraux dans la relation avec les Occidentaux en particulier, c'est qu'on voit que l'accord nucléaire n'a pas réglé les différends sur la perception de la scène régionale. Les Américains se sont rapprochés clairement de l'Iran dans beaucoup de domaines, mais pas au point d'avoir une vision commune de l'avenir de la Syrie, de l'avenir de l'Irak. Et donc il y a effectivement une tension autour de la politique extérieure. Une partie du deal interne en Iran, au moment de l'accord nucléaire, a été de laisser à Rouhani les mains libres pour l'accord nucléaire, en contrepartie de quoi il n'est pas en charge de la politique en Irak ou en Syrie ou au Liban ou au Yémen. Donc il y a effectivement, de ce point de vue-là, une sorte de partage des rôles dans la politique étrangère où le président et le ministre des Affaires étrangères, Zarif, sont le visage qui négocie avec l'Occident, qui cherche à obtenir l'ouverture du pays dans une logique pragmatique, pendant qu'une autre partie du système, les gardiens de la Révolution, les conservateurs, ont plutôt la main sur d'autres aspects de la politique étrangère, notamment tout ce qui est la politique régionale. Et on voit que les tensions avec l'Arabie Saoudite, dont l'Iran n'est pas seul responsable, il y a une tension très forte et une méfiance très forte du côté saoudien, sont un facteur de crise, j'allais dire potentielle, mais même pas potentielle, puisqu'on voit aujourd'hui à quel point ces tensions sont fortes avec des Saoudiens qui envisagent ou laissent flotter l'idée d'une intervention en Syrie pour chasser Bachar el-Assad. Même si c'est une hypothèse improbable, on voit que l'accord nucléaire n'a pas réglé les tensions régionales et qu'on pourrait même dire qu'elle les a en partie exacerbées dans la mesure où les Saoudiens ne font plus confiance aux Américains pour défendre leurs intérêts.
Et on voit ces jours-ci l'affrontement, en tout cas verbal et aussi sur le terrain de façon directe ou indirecte entre la Russie et la Turquie. Quel peut être le rôle ou plutôt l'intérêt de Téhéran dans cette escalade?
Alors, il y a une question qui est très intéressante et à laquelle je n'ai pas une réponse définitive, mais qui me semble centrale. L'Iranien et Russe semblent être absolument sur la même ligne de défense de Bachar el-Assad et de maintien de Bachar el-Assad dans le système. La question, c'est jusqu'à quel point est-ce que les Iraniens n'ont pas, en quelque sorte, imposé aux Russes une ligne de plus grande fermeté, qui soit une ligne dans laquelle le maintien de Bachar el-Assad soit une nécessité, parce que peut-être que les Russes avaient des solutions de rechange, mais qui n'allaient pas aux Iraniens. Tout ce qui s'est passé depuis 6 mois sur la Syrie, pour moi, commence avec la visite de Soleimani, donc le responsable de la force code, qui est l'homme clé de ces dossiers, de dossiers syriens, à Moscou, où avec Poutine, ils ont en quelque sorte établi une ligne commune qui passe par le maintien à toute force de Bachar el-Assad en Syrie, et donc une opposition assez frontale aux intérêts et aux positions de la Turquie, de l'Arabie Saoudite, et dans une moindre mesure, mais assez clairement, des Occidentaux, même si les Américains ont accepté de mettre les Iraniens dans la salle de négociation sur le dossier syrien, dont on sait bien que la négociation de paix avance peu en ce moment.
Oui, c'est un euphémisme. Merci Camille. Clément Terme, vous avez étudié en particulier les relations entre Téhéran et Moscou. Vous êtes d'accord avec cette analyse ?
Oui, mais je pense pas que pour l'Iran, le maintien de Bachar al-Assad soit aussi prioritaire que pour Moscou, parce que je pense pas que l'Iran est en Syrie pour la Syrie. Je pense que l'Iran est en Syrie pour accéder au Hezbollah libanais et pour jouer un rôle dans le conflit israélo-palestinien, pour préserver le corridor stratégique qui relie l'Iran au territoire libanais, et alors que la Russie est là pour des raisons de prestige face à l'Occident, face aux États-Unis. Et donc là, il y a quand même un enjeu plus important pour Moscou par rapport au propre récit qui est défendu à Moscou depuis 2011 en disant « Regardez, vous avez prévu la chute de M. Bachar al-Assad, il est toujours là, alors que c'est grâce à l'intervention russe qu'il se maintient ». Par contre, là où l'Iran pourrait faire un blocage, et la Russie également, c'est s'il voit la perspective de l'émergence d'un gouvernement pro-occidental, pro-Arabie Saoudite à Damas. Et je pense que ça, c'est vraiment la ligne rouge pour les deux. Et en même temps, ils s'entendent aussi parce que face à la poussée de Daesh et de l'État islamique, on voit aussi que les djihadistes sunnites tuent aussi bien des chrétiens que des chiites. Donc là aussi, il y a cette alliance des minorités. Et l'Occident, peu ou prou, est en train de rejoindre la position russe, notamment depuis les attentats de Paris, sans le dire à demi-mot, par la crainte de voir les djihadistes français partis combattre en Syrie revenir sur le territoire français. On est en train de développer aussi des relations avec l'État syrien, le gouvernement officiel de Syrie.
Encore que la conférence de sécurité à Munich, là, il y a quelques jours, a été glaciale. Enfin, il n'y a pas eu du tout de...
Mais le risque, c'est aussi la question turque, parce qu'on voit que la Turquie essaye de pousser l'OTAN dans un conflit avec la Russie. Donc là, il y a le jeu turc qui est compliqué derrière. Et bon, je pense que l'Iran n'a pas pour priorité la Syrie. Je pense que vraiment la priorité de l'Iran au Moyen-Orient, c'est l'Irak et qu'il s'agit de préserver les frontières de l'Iran. Il faut savoir que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu d'attentat de Daesh en Iran. Donc malgré l'implication croissante et la participation de l'Iran à toutes ces guerres, l'État iranien a été à même de préserver la sécurité sur son territoire.
Thierry Coville, c'est évidemment dans ce contexte extraordinairement tendu et embrouillé que les investisseurs occidentaux découvrent ou redécouvrent le potentiel d'un marché iranien de quelques 80 millions de gens qui évidemment ont faim et soif de toutes sortes d'améliorations matérielles. En même temps, le régime veut des investissements, en tout cas le président Rouhani, on l'a dit, mais sous condition. Il ne faut pas qu'il y ait... Il peut y avoir une amélioration matérielle, mais pas de contamination culturelle.
Oui, enfin... Bon,
ça, sont des mots.
Non, mais oui, moi je pense que c'est des mots, si vous voulez. Je pense que... c'est vrai que l'Iran donne beaucoup d'armes pour se faire caricaturer à l'étranger. C'est pas moi qui dirais le contraire. Mais je pense que là, des choses que j'ai entendues, je trouve très caricaturales. C'est moi, j'étais en Iran quand j'étais interviewé dans les épiceries iraniennes sur qu'est-ce que je pensais de l'agression culturelle, si vous voulez, occidentale. C'était au début des années 90. Donc il y a toujours ce discours. Mais comme on l'a dit, si vous voulez, les Pasdaran qui vont tenir ce discours dans une réunion, ils disent « Ah, excusez-moi, je dois m'absenter. » Ils vont aller signer un contrat avec une joint venture, avec une entreprise norvégienne dans le pétrole. Donc, si vous voulez, il y a ce qu'on dit parce que il y a l'idéologie. On a fait la révolution à 35 ans et il y a les intérêts économiques. Alors, c'est là où effectivement c'est compliqué l'Iran. C'est là que je pense qu'il faut peut-être. C'est compliqué, mais l'Iran est un pays normal aussi. Il faut arrêter un petit peu le côté un peu exceptionnel. On a, je pense, une formidable modernisation de la société iranienne. Et je pense qu'il ne faut pas se tromper. Un peu dans le discours caricatural, c'est ouais, il y a une gentille société, mais il y a ce méchant régime, etc.
Parce qu'on voit un cinéma iranien, enfin, voilà. Quitte à ce qu'il soit horriblement censuré en Iran même, raconte une société.
Compliqué, le dernier film de Panahi, on voit bien la complexité, etc. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que cette modernisation, elle touche tout le monde. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas dire le contraire de ce qu'on a dit pendant 30 ans. Je veux dire, vous parlez de la relation entre l'Iran et les États-Unis.
On connaît beaucoup d'hommes politiques que ça n'a pas gêné.
Si vous voulez, quand vous faites une révolution, c'est quand même... on ne peut pas changer tout rapidement. Donc, ils ont quand même dit mort aux États-Unis pendant 35 ans. Donc là, dire tout d'un coup, reprise des relations diplomatiques, c'est compliqué. Je veux dire, revenons à votre question, effectivement, il y a un discours en Iran sur faut préserver l'espace culturel. Mais il y a beaucoup de nationalisme en Iran. Je pense que même les plus durs savent que l'Iran a besoin d'investissements étrangers. C'est ça qui est intéressant en Iran. Je pense que quand on regarde un peu ce qui se passe à l'intérieur de la société iranienne, il y a un consensus en Iran, même chez les durs maintenant. Alors, il y a des ultras, ça c'est vrai. Mais sur le fait que l'Iran a besoin d'être moins dépendant du pétrole, a besoin d'avoir un vrai système fiscal, a besoin de développer les exportations non pétrolières. Même Ahmadinejad, avec tout ce qu'on peut dire sur lui, il a essayé de soutenir le développement des exportations non pétrolières. Donc c'est ça, si vous voulez, il faut bien comprendre que l'évolution des mentalités, quand le pays, il y a une hausse du niveau d'éducation, il n'y a pas qu'en Iran qu'on a vu ça, elle atteint tout le monde, si vous voulez, elle atteint tout le monde. Donc c'est vrai que, et je pense que ce qui se passe en Iran, c'est une lutte politique pour garder la mainmise, effectivement, sur des rentes économiques et également le pouvoir politique. Mais du côté de la société, et ça touche également le régime, parce que vous pouvez pas avoir maintenant, je vous l'ai dit, 50%, 60% de filles dans les universités, partout en Iran. Vous pouvez pas avoir une élite. Si vous voulez, 80% de l'Iran, c'est en main de l'État. Tous ces technocrates, ils viennent d'où? Tous ces technocrates, c'est la société iranienne. C'est eux-mêmes qui conseillent les plus durs, si vous voulez. Donc, ce qu'il faut bien voir, c'est que le pays se modernise. C'est vrai qu'il y a un discours, mais je pense qu'il est très politique. Ce qui est un peu paradoxal dans le cas de l'Iran, mais vous me direz, il n'y a pas que l'Iran. Les mêmes qui vont critiquer Rouhani parce que il développe le secteur privé, il attire l'investissement étranger, s'ils avaient tout le pouvoir, ils feraient exactement la même chose. Donc il y a une lutte politique. Alors, par exemple, en Iran, le guide parle beaucoup de l'économie de la résistance. Donc il dit, voilà, Rouhani menace l'économie de la résistance. Mais en réalité, c'était quoi l'économie de la résistance en Iran? C'était des mafias qui se sont mis plein la poche, en partie à cause des sanctions. Et donc, voilà, il y a tout un discours sur l'économie de la résistance. Tout le monde le sait, là. C'est une lutte politique, mais la réalité économique, c'est autre chose. Et croyez-moi, les plus durs, etc., en Iran, bon, à part certains, on va dire, mais s'ils avaient le pouvoir, ils feraient la même chose. Donc je pense qu'il y a un consensus pour attirer l'investissement étranger. Le problème, c'est comment ça se passe. Je l'ai dit tout à l'heure, les mêmes qui disent, oui, il faut de l'investissement étranger, ils veulent pas non plus qu'il y ait un secteur privé trop important, qui menace leur rang de situation. Il n'y a pas qu'en Iran, si vous voulez. Donc, c'est cet ajustement. Donc, ils vont trouver les moyens. Et effectivement, les passes d'Aran et les plus durs, ils veulent toujours avoir des porte-voix au Parlement qui défendent leurs intérêts. Donc, si vous voulez, je pense qu'il y a vraiment un consensus pour l'ouverture en Iran. Le problème, et il n'y a pas qu'en Iran aussi, c'est vraiment l'articulation politique. C'est une lutte politique pour le pouvoir qu'on est en train de voir.
Éric Scholl, patron de Courrier International, notre partenaire. Vous êtes intéressé dans la presse américaine et européenne à cette espèce de rivalité qui s'est installée dès les accords signés, dès les sanctions levées plus exactement, entre les grands opérateurs économiques, je pense à Airbus qui a signé avec Téhéran, et évidemment les Américains qui ont un jeu plus compliqué à cause de leur propre...
Un jeu plus compliqué. En fait, ce qu'on a vu, c'est la tournée triomphale du président Rouhani en Italie, en France, et seulement donc quelques jours après la levée des sanctions, l'a bien montré avec un Iran redevenu fréquentable. Il y a à la clé des milliards de dollars d'euros de nouveaux marchés à saisir dans l'automobile, dans les infrastructures ou dans le pétrole. Mais bizarrement, comme le relève le magazine américain Fortune, eh bien les grandes entreprises des États-Unis sont particulièrement absentes dans cette course aux grands contrats. Elles auraient pourtant dû être finalement les premières, étant donné le poids de Washington dans la conclusion de l'accord nucléaire du 14 juillet dernier. Mais voilà, ces efforts ne sont guère payés de retour, explique le journaliste de Fortune, car, et je le cite, avec le maintien de sanctions liées aux violations des droits de l'homme et au terrorisme, avec un Congrès américain prêt à bloquer toute initiative pour lever ces dernières sanctions, l'Amérique s'est placée dans un vide dès qu'il s'agit de traiter avec l'Iran, et ce sont les Européens qui se pressent pour remplir ce vide. Conclusion, les investisseurs européens font donc la course en tête. Pour eux, c'est un moment unique pour progresser rapidement sur un marché au potentiel prometteur. C'est ce qu'assure en tout cas le journaliste de Fortune.
Oui, pour autant, les Américains ne vont pas être absents du développement iranien.
Alors, pas complètement, en tout cas si on en croit le journal iranien Sharg. C'est un quotidien plutôt modéré. Eh bien, ce quotidien vient de publier une interview d'un haut fonctionnaire iranien, interview qui a été traduite par le site spécialisé sur l'Iran, les lettres persanes. Et ce haut fonctionnaire, qui est le directeur du Haut Conseil aux importations, explique comment les autres entreprises occidentales ont su jouer avec les sanctions pour mieux les contourner. Il raconte par exemple comment la société Apple a réussi à se développer en Iran alors que la marque américaine s'était elle-même interdite de faire du commerce dans ce pays. Alors je cite ce haut fonctionnaire, Apple sait combien la marque est célèbre en Iran et en conséquence a fabriqué beaucoup de produits à destination de la région qui finissait bien sûr en Iran. Une façon en fait de jouer à saute-mouton avec les frontières et avec bien sûr les sanctions.
Et alors du côté des Européens, Comment se débrouille-t-il?
Alors là encore, rien n'est fait, en particulier du côté des banques, Camille Grand le soulignait tout à l'heure, où la prudence est de mise. Le Guardian, le journal Le Guardian, est allé sonder une dizaine de grandes banques dans la City pour connaître leur position sur l'Iran. Et ce qui en ressort, ce sont les fortes réticences des banquiers européens à effectuer aujourd'hui des paiements avec l'Iran. Des réticences faciles à comprendre. Les banques n'ont pas oublié l'amende infligée à BNP Paribas, c'était il y a 2 ans, une amende de 9 milliards de dollars par les autorités américaines. Eh bien, donc, malgré la levée des sanctions, rapporte le journal britannique, elles craignent encore aujourd'hui la réaction du Trésor américain, toujours aussi vigilant sur les activités financières avec l'Iran. Et le Guardian conclut, le climat général est donc d'attendre et de laisser les autres prendre les risques en premier.
France Culture, Affaires étrangères.
Christine O'Krent.
Marie Ladier-Fouladi, Éric Scholl y faisait allusion, on voit que aux États-Unis surtout, et pas seulement au niveau fédéral, mais au niveau de certains États américains ou même de certains comtés, il y a des sanctions qui restent liées aux énormes enjeux des droits de l'homme, de la discrimination faite aux femmes en Iran. Je crois qu'il y a plus de pendaisons, il y a plus de condamnations à mort en Iran qu'en Arabie Saoudite, ce qui donne quand même une idée de l'étiage en question. Jusqu'à quel point, dans cette société iranienne, comme le rappelait Thierry Coville, où le niveau d'éducation a quand même beaucoup augmenté, où il y a une aspiration à la modernité, jusqu'à quel point est-ce que la religion reste une empreinte et un carcan pour la nouvelle génération?
Par rapport à la religion, ça dépend des régions, ça dépend des générations. Pour ce qui concerne les nouvelles générations iraniennes, ce que je peux dire pour aller vite, c'est que peut-être la République islamique a réussi, malgré elle, à séculariser la société iranienne.
Malgré elle.
Oui, malgré elle, parce qu'en fait, les lois sont inspirées de la charia et sont conformes par rapport à la religion et l'islam chiite. Et il y a une répression très forte dans la société. Il y a des institutions qui sont créées depuis l'instauration de la République islamique pour justement maintenir l'ordre moral et religieux au sein de la société. En dépit de l'ensemble de ces obstacles, depuis l'instauration de la République islamique, la société iranienne et en particulier les femmes iraniennes n'ont cessé de contourner l'ensemble de ces lois, obligations, les injonctions religieuses jusqu'à maintenant. En fait, si j'explique la sécularisation par en fait les mutations socioculturelles qui ont été induites par une dynamique sociale.
Et donc ça, c'est l'éducation.
Et cette dynamique sociale a été en fait s'inspire sans la racine. Je trouve la racine dans la révolution de 1960. 1978-79, et évidemment par la suite avec une diffusion importante de l'école dans l'ensemble des régions iraniennes, notamment dans les zones rurales, qui ont permis à l'ensemble de la population, notamment des jeunes filles, à accéder à l'école. Et en l'espace d'une dizaine d'années, les filles ont arrivé à non seulement rattraper le retard par rapport aux garçons, mais dans certaines villes, même dépasser le niveau d'instruction scolaire des garçons.
Et dans un des papiers que vous avez écrit il y a déjà, je crois, 4 ou 5 ans, vous disiez que la baisse de la fécondité était très nette.
Tout
en
à
Iran.
Fait.
Et ça continue.
Et évidemment, c'est peut-être un des changements majeurs survenus après l'instauration de la République islamique, que moi j'explique aussi avec une sorte de sécularisation de la société iranienne et dont les actrices principales sont des femmes. C'est la baisse importante de la fécondité en Iran qui a commencé au milieu des années 80 et une baisse historique, si vous voulez, en l'espace de 15 ans, il y a 70% de baisse de la fécondité, on passe à peu près de 7 enfants au début de l'instauration de la République islamique à aujourd'hui à 1,8 enfants en moyenne par femme. Et ce niveau de la fécondité est en train maintenant de poser des problèmes aux guides et à la République islamique.
Oui, qui voudrait évidemment que la population reste plus nombreuse. Mais en ce qui concerne les droits de l'homme, on sait qu'il y a des pressions. Je voyais que Shirin Ebadi, prix Nobel de la paix, au moment de l'échange de prisonniers avec les États-Unis, avait écrit une lettre ouverte au président Rouhani en disant « C'est très bien, mais quand est-ce que vous allez gracier des condamnés iraniens ?» C'est une voix qui reste très isolée.
Tout à fait. Parce que de toute façon, Rouhani n'a vraiment aucun pouvoir à l'intérieur de l'Iran. Sur le plan intérieur, c'est le guide qui est chef de l'État qui décide. Et le puissant chef judiciaire, qui est l'un des frères Larijani, qui a toutes les cartes en main. Et évidemment, aussi bien la voix de Shirin Ebadi que l'activité, éventuellement l'action de Rouhani resteront isolées. Et en même temps, c'était hier ou avant-hier, Zarif qui était au Parlement européen, et quand on lui reproche effectivement les problèmes
c'est le ministre des Affaires étrangères.
C'est le ministre des Affaires étrangères qui était pour la première fois accueilli au Parlement européen, qui reproche aux Européens en disant occupez-vous de vos problèmes de droits de l'homme ici, c'est pas la peine
oui,
de.
Oui, ça, c'est la réponse habituelle voilà, tout à fait. Des régimes autoritaires ou dictatoriaux, voilà. Quels qu'ils soient. Clément Terme, on arrive à la conclusion de cette émission. Il y a quelque chose de très difficile à comprendre, je crois, pour nous autres Européens, qui est cette espèce de dialectique entre une théocratie qui nous paraît moyenâgeuse et en même temps une dialectique révolutionnaire. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est contradictoire ?
Ça veut dire que c'est une révolution religieuse. C'est ça qu'on a du mal à comprendre.
Et ça,
en fait,
c'était il y a 30...
Ben oui, mais le problème, c'est qu'il y a eu des lectures ici. Par exemple, des mouvements de gauche se sont fascinés pour la révolution iranienne. Il y a eu une mauvaise interprétation du mouvement révolutionnaire. Et jusqu'à aujourd'hui, cela nous poursuit, je pense. Donc, c'est vrai qu'il y a cette dynamique révolutionnaire initiale. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est que les élites de la République islamique sont convaincues de leur légitimité. Et ça, c'est très important, parce qu'ils sont à la base issus d'une révolution, et c'est pas, disons, une dynastie qui a été mise au pouvoir par une puissance étrangère,
les
par exemple.
Les élites, vous voulez dire pas seulement
politique, non,
les
ça
religieux.
Veut dire les dirigeants, oui, mais les dirigeants de l'Iran actuel, comme l'a dit Thierry, il y a aussi des technocrates qui conseillent, qui ont fait leurs études aux États-Unis. Donc aujourd'hui, on est dans un mélange assez étrange entre une technostructure qui est tout à fait qualifiée, qui ont des masters, des PhD, c'est un des pays où il y a le plus haut taux d'ingénieurs au monde, l'Iran. Et en même temps, il y a cet habillage religieux qui donne une certaine légitimité aussi au système, parce que le guide suprême se réclame d'une légitimité divine, et c'est comme ça qu'il peut imposer son autorité, comme l'a expliqué Marie, sur les institutions non élues. Il est clair que le guide est l'ultime décisionnaire, et c'est pour ça que la justice est très importante, parce que le droit islamique, pour eux, c'est majeur, et le maintien, par exemple, du voile, etc., sont des enjeux importants de société et de contrôle du régime sur la société. Mais en même temps, je dirais que le fait qu'ils aient fait participer la population, c'est ce que j'ai expliqué sur la surprise tout à l'heure. Le risque, c'est ce qui s'est passé en 2009, c'est que justement, quand une surprise naît et que la population s'engouffre dans une faille qui est créée par ce moment de liberté qu'est les élections, si vous voulez, qu'ils perdent le contrôle. Donc c'est quand même, disons, comme tous les régimes autoritaires contestent le discours occidental sur les droits de l'homme en rétorquant sur les doubles standards occidentaux, etc., on connaît, la même chose là va se produire, c'est-à-dire qu'on a un régime qui est l'émanation à la fois d'une légitimité révolutionnaire et se réclame d'une légitimité populaire, mais quand les deux légitimités sont en confrontation, que les intérêts économiques ne sont plus en adéquation avec les valeurs révolutionnaires ou, disons, l'idéologie du régime, c'est la difficulté à s'adapter. Et le risque pour Rouhani, c'est d'être le Gorbatchev de l'Iran. Et c'est ce qu'il veut éviter. Et c'est pour ça que je suis assez pessimiste, moi aussi, là, pour le coup, sur l'avenir politique de Rouhani à long terme. C'est-à-dire que peut-être il fera deux mandats, parce que pour les contrats, etc., dans le pétrole, tout ce qu'on a évoqué avec Thierry, cela prend des années, hein, si on investit aujourd'hui dans le secteur pétrolier iranien. Mais c'est vrai que on peut quand même être optimiste si on regarde la société civile et la société iranienne, parce que...
Oui, mais si elle ne peut pas s'exprimer, si vendredi prochain, encore une fois, comme vous l'expliquiez tous les trois, les clans ultra-conservateurs s'organisent à la fois pour décourager les gens d'aller voter ou pour empêcher des candidats pro-Rouhani de se présenter, donc ça veut dire qu'en gros, cette élection sera inopérante.
Je dirais, comme historien, que les révolutions sont imprévisibles par définition. Donc c'est normal qu'aujourd'hui, on ait du mal à penser le changement. On pense toujours avec plus de facilité le statu quo. Rappelez-vous, Jimmy Carter qui salue le Shah d'Iran en 1978 en qualifiant l'Iran d'îlot de stabilité. On est à quelques semaines de la révolution. Donc, bien sûr que moi, j'étais en Iran juste avant le mouvement vert de 2009, quelques mois avant. On disait qu'il y avait une apathie dans la société iranienne. Tous les analyses convergeaient. Et ça a été une surprise. Donc, moi, je reste optimiste.
Mais encore une fois, les dirigeants de ce mouvement vert sont toujours assignés à résidence. Et je crois que la presse ne peut même pas mentionner leur nom.
Le nom de président Ratami. Il n'a pas de passeport non plus pour voyager. Oui, il y a ce contrôle, évidemment, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, le risque, c'est la dissidence. Mais en même temps, ce risque, c'est aussi un espoir, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont à l'intérieur du système et qui ne croient plus en la révolution telle qu'elle a été vécue comme une révolution religieuse en 78-79, dans les premières années. Donc, qui eux-mêmes sont favorables au changement. Donc aussi, on peut espérer qu'à un moment donné, à l'intérieur du système, il y a un groupe qui se constitue. Ce qui est sûr, c'est que la population ne veut pas d'une nouvelle révolution avec toutes les violences que ça va engendrer. Et c'est pour ça que le régime a eu beaucoup de succès pour réprimer le mouvement vert. Parce qu'il y a une crainte de revivre une autre révolution avec toutes les violences que ça peut engendrer, et un désir de stabilité et la peur aussi de balkanisation, comme on peut voir en Syrie, en Afghanistan ou en Irak. Il faut voir aussi l'environnement régional de l'Iran pour comprendre, je pense, le désir de stabilité des Iraniens. Et c'est très important. C'est pour ça que j'ai mentionné le fait que Daesh n'a pas commis d'attentat sur le territoire iranien. Et ça me semble assez important sur la capacité de l'État iranien à contrôler son territoire.
Oui, et le souvenir de la guerre Iran-Irak, 10 ans, avec toute une génération...
De martyrs.
Fauchés, en tout cas. Thierry Coville, très brièvement, jusqu'à quel point, et je dirais dans quel calendrier, est-ce qu'une embellie économique peut, en quelque sorte, peser sur ce calendrier politique? Je ne pense évidemment pas à vendredi prochain. Je pense à l'élection présidentielle à laquelle Marie Ladier Fouladi faisait allusion.
Oui, c'est vrai. Alors, ça va être compliqué, mais disons, déjà, avec l'effet de la fin des sanctions, le FMI, je crois, prévoit 5% de croissance cette année en 2016 en Iran, sachant qu'ils étaient peut-être négatifs. Donc déjà, il va y avoir une reprise économique, mais c'est tout l'enjeu des réformes qui vont être mises en place. Il faut que ce soit pas simplement un seul coup, qu'il y ait une reprise conjoncturelle. Si vous voulez, je pense qu'il faut que Rouhani, il arrive à retrouver la confiance, alors des Iraniens, c'est un sacré enjeu, mais déjà du secteur privé iranien. Donc je pense qu'il a en mettre en place des réformes, disons qu'il les a entendues. Bon, s'il veut attirer de l'investissement étranger, comme il l'a dit, il faut qu'il vraiment il élimine la bureaucratie, il lutte contre la corruption, il privatise quand même véritablement l'Iran, ce qui n'a quasiment jamais été fait. Donc si vous voulez, vraiment les gens l'attendent là-dessus. Ils connaissent ses problèmes politiques, donc. Et alors, problème de création d'emplois aussi, je veux dire, avec quand même plus de croissance, il peut espérer créer des emplois. Donc, c'est vrai que, a priori, l'économie va repartir, mais ce qu'il faudra également regarder, c'est vraiment la qualité des réformes et ce qu'il améliore l'environnement pour éventuellement l'Iran puisse devenir un véritable marché émergent comme il en a le potentiel.
Vaste programme et l'Iran toujours aussi fascinant. Merci à vous, Thierry Coville, économiste, chercheur à l'IRIS. Vous avez notamment publié « Iran, la révolution invisible » aux éditions La Découverte. Merci à vous, Marie Ladier-Fouladi, démographe chargée de recherche CNRS-EHESS. Vous avez notamment publié « Iran, un monde de paradoxes ». On voit à quel point toujours les appellations tournent autour du même thème. C'était aux éditions Atalante en 2009. Merci à Clément Terme, enseignant en Sciences Po. Vous avez récemment publié « Les relations entre Téhéran et Moscou depuis 1979 ». Merci à Camille Grand qui était avec nous au téléphone depuis Londres. Merci à Eric Scholl. Courrier international à la réalisation aujourd'hui, Luc-Jean Reynaud, à la technique Jacques Hubert, à la préparation Meryl Moneghetti. Vous retrouverez bien sûr toute la bibliographie nécessaire sur notre site dans quelques instants, comme chaque samedi. Dominique Rousset pour l'économie en question. Très bon week-end.